Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je suis avec Thomas Herel, le fondateur et directeur artistique de Designer Box. Alors, Designer Box, c'est deux choses. Depuis 6 ans, c'est une box qui propose tous les mois un objet design unique, signé par un designer de renom ou émergent, et à petit prix. Comme un cadeau dans sa boîte aux lettres. On adore l'idée. Depuis un mois, c'est aussi une plateforme qui permet aux designers de vendre directement leurs créations exclusives et à nous, de les acheter au meilleur prix. Thomas bouscule les codes de la distribution et du design, il veut faciliter l'accès à la création et ça, c'est une bonne nouvelle. Cet épisode est enregistré dans un petit salon cosy du Panache Hotel. Bonjour Thomas.
Bonjour Hortense.
Alors avant de commencer, on va beaucoup parler de design. Pour vous, quelle est votre définition du design? Un objet design, c'est quoi?
C'est un objet du quotidien qui amène une certaine poésie et gaieté dans le quotidien.
Et on va beaucoup reparler du design que vous souhaitez rendre accessible. Est-ce qu'à la base, le monde du design n'est pas un peu trop pointu, un peu trop élitiste, un poil snob? Qu'est-ce que vous en pensez?
Le design paraît pointu, c'est lié principalement à des problèmes de communication, puisque finalement les acteurs du secteur s'adressent principalement à leurs clients, qui ont les moyens aujourd'hui d'acheter du design signé de créateurs. Et donc évidemment, ils ne s'adressent pas forcément à une cible très large. Et c'est exactement l'enjeu de Designer Box depuis sa création.
Justement, parlez-nous de Designer Box. Designer Box, c'est quoi?
Alors Designer Box, c'est justement au-delà d'éditer et de proposer des objets, c'est avant tout de raconter des histoires, c'est-à-dire d'utiliser l'objet comme un vecteur d'émotion, de faire découvrir finalement la création à des gens qui, a priori, ne connaissent pas, parce que finalement les gens ne connaissent pas les créateurs, ne connaissent pas, à part Stark, on peut balancer n'importe quel nom, même de grands créateurs aujourd'hui très connus dans le secteur, les gens ne connaissent pas. Donc vraiment l'idée c'était de dire on va mettre de la valeur sur la création, le créateur, et de parler au plus grand nombre. Et pour parler au plus grand nombre, il faut évidemment que le prix soit accessible et qu'on se donne la peine de raconter leur histoire, leur parcours, la fabrication de l'objet, toute une série d'aspects que tout un chacun peut comprendre.
Alors, comment a démarré l'aventure Designer Box?
Le lancement du site était en 2013. La volonté, c'est pour parler des créateurs, il faut forcément éditer des produits. Aujourd'hui, les problématiques qu'il y a dans l'édition, c'est que il faut éditer, trouver un distributeur, faire des salons. Donc, c'est toute une série d'étapes qui renchérissent le prix du design. Donc, pour faire de l'édition, et qui coûte très cher. Donc pour faire de l'édition et à un prix ultra accessible, il y avait le système des box qui était intéressant, puisque c'est finalement un mode de distribution en circuit court, qui joue sur l'effet de surprise et de découverte. Et finalement, à partir du moment où les gens s'abonnent pour découvrir quelque chose, on a fait la moitié du chemin, puisque finalement, là, ils sont très à l'écoute de l'histoire qu'ils vont recevoir. Et personnellement, je n'y connaissais rien en logistique, mais il a fallu qu'on emballe les premières box à la main, qu'on fasse fabriquer. Donc j'avais quelques réseaux, on a utilisé les réseaux des créateurs, qui sont souvent en lien avec des fabricants. Petit à petit, voilà, ça s'est fait. Et puis, je connais pas mal de créateurs, donc c'était assez simple de lancer, en tout cas au départ, ce projet. Après, ça se complique un peu, mais...
Pourquoi ça se complique?
Ça se complique parce qu'évidemment, un objet par mois, un créateur par mois, c'est déjà à chaque fois un mode, une relation qui est tout à fait différente, puisqu'il n'y en a pas un qui travaille de la même manière. C'est à chaque fois, pour moi, mais c'est aussi ça qui est génial, l'occasion de découvrir, de rentrer dans l'univers créatif d'un designer ou d'un créateur. Mais c'est après, derrière, sourcer le bon fabricant pour avoir le bon prix, la bonne qualité, préparer les colis, envoyer. Donc, c'était. Et tous les mois, ça recommence. Donc ça paraît à la fois 12 créateurs par an, ça paraît à la fois peu, mais c'est énorme parce que c'est tous les mois, faut sortir, raconter l'histoire, il y a tout un travail éditorial derrière, enfin, après faire le vendre en ligne, enfin bref.
Ouais. En quoi consiste la box précisément? Vous avez un peu dit à l'instant, le designer fabrique en exclusivité pour Designer Box, c'est pas un produit qu'on peut retrouver ailleurs, c'est bien ça?
L'idée, c'est vraiment de... il faut que le créateur se sente impliqué. Pour ça, il faut qu'il rentre un peu dans le jeu de la surprise. C'est à la fois un travail qui doit être généreux, très court, de la part du créateur. Il y avait Harry Clevy, qui était un des tout premiers, qui disait très justement, c'est un peu comme une gourmandise. C'est-à-dire que le travail qui est demandé au créateur, c'est pas un travail long et laborieux. Ça doit surtout pas être ça, parce que ça, c'est le cadre de l'édition. Quand on fait un meuble rembourré, c'est des développements d'un an, deux ans, voire trois ans. Là, l'objectif, c'est rester sur de l'objet et faire quelque chose qui soit très spontané, qui soit vraiment au cœur même de l'ADN du créateur. Donc, il a une grande liberté. Et l'objectif, c'est justement que l'objet lui ressemble et que c'est quelque chose qu'il offre, finalement, aux abonnés. Et
justement, comment vous travaillez avec eux? Vous dites qu'il a une grande liberté. Qui décide du produit à créer? Quel est le cahier des charges que vous leur donnez?
Tous les créateurs, chaque créateur a une approche différente. Donc il y a des créateurs qui sont très à l'aise, qui ont des univers très forts. Ils sont tout à fait capables de rentrer dans un brief précis. L'objectif, au contraire, pour nous, c'est comme il faut que l'objet raconte une histoire et raconte l'histoire du créateur. Il ne faut pas les enfermer dans quelque chose qui soit trop figé. Donc je dirais que au début de l'aventure, comme on n'avait pas de produit, pas de référentiel produit, c'était un peu particulier, c'était vraiment des cartes blanches. Ils faisaient ce qu'ils voulaient à partir du moment où on pouvait, évidemment, qu'il fallait que ça rentre dans une boîte et que et dans un coût de production. Donc ça, c'était le début. Aujourd'hui, ça existe encore, mais on donne plus un brief plutôt lié à l'usage du produit. Jamais au niveau du style, jamais d'autres contraintes que tu fais ce que tu veux. On aimerait bien faire, on en discute, est-ce que c'est des verres, une tasse, un plat, un objet déco.
Alors quand vous avez lancé la box, c'était la grande mode des box, les box beauté, les box fleurs, etc. Est-ce que c'est un peu retombé ou il y a toujours un vrai engouement autour de la box?
Alors il y a toujours un vrai marché là-dessus, puisque finalement c'était même un concept qui était avant l'engouement qu'on a pu voir sur internet il y a 6-7 ans au début de Designer Box. C'était le cas du club des créateurs de beauté monté par Agnès B, ça existe depuis les années 70. Donc non, c'est vraiment, il y a un vrai marché, puisque ça joue sur le côté du cadeau qu'on se fait ou du cadeau qu'on fait. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'évidemment, il y a eu un tri qui s'est fait sur le marché où finalement, il n'y a que les acteurs qui ont une vraie proposition de valeur qui sont restés ou qui ont réussi à tenir, parce que c'est pas facile. Mais il existe de tout. Il y a une multitude de raisons de s'abonner.
Mais chez Designer Box, par exemple, entre il y a 6 ans et aujourd'hui, il y a toujours le même... Vous avez des abonnés qui sont les mêmes depuis le début, des nouveaux?
Alors, il y a des fous furieux qui sont abonnés depuis le début, qui ont nos 70 produits. Mais c'est rare. Non, ça a évidemment bien évolué en termes de quantité, de nombre, évidemment. Et du coup, aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle qui est beaucoup plus vaste qu'elle ne l'était au début, puisqu'au début, les gens, c'était avant tout des gens du secteur qui connaissaient le secteur, qui connaissaient les créateurs qui allaient faire des box. Donc, ils se disaient, finalement, un objet de cet acteur-là, de Ron Gilad, d'Harry Clevy ou Piero Liseni à 20 euros, c'est génial. Voilà. Donc,
vous avez réussi votre pari de rendre le design accessible. Votre cible est beaucoup plus variée.
Beaucoup plus variée.
Est-ce que ce sont des éditions limitées ou pas? J'ai lu que les moules de ces objets étaient détruits pour préserver la rareté de l'objet. C'est vrai?
Alors, c'était ce qui s'est passé au début. Effectivement, c'était de se dire, on fait une édition, puis après, c'est fini. Au bout de la deuxième année, on s'est dit, mais c'est quand même beaucoup de travail d'éditer un produit tous les mois. C'est aussi beaucoup de travail dû par le créateur. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on limite ça? Et limiter, finalement, c'est continuer à s'adresser à des professionnels, à des collectionneurs, à des gens qui, finalement, ont les moyens de s'acheter de l'objet en édition limitée dans des galeries, et que ce n'est pas notre clientèle, ce n'est pas notre volonté. Donc il y a une vraie évolution à la deuxième année, un vrai choix d'aller au contraire beaucoup plus s'ouvrir sur le consommateur standard. Et du coup, on a même baissé le prix de la box, puisqu'on est passé de 29 euros à 19,90 €. Donc c'était vraiment un acte très fort pour ouvrir le marché.
Est-ce que vous avez déjà refusé un projet, finalement, la création du créateur vous plaisait pas?
Non. Et pour tout dire, il y a des créateurs avec qui on a sorti un objet, une box, dont j'étais pas forcément fan du travail, mais où je trouvais que c'était légitime qu'ils soient dans le pool des créateurs qu'on met en avant parce qu'ils ont un travail qui est très fort, très marqué, et que le design, c'est tout sauf une question de style ou de goût. Qu'est-ce que c'est le bon goût? Bah non, c'est une variété de propositions. Justement, je me suis même moi-même fait prendre au piège de la découverte, et j'ai découvert à l'occasion de ces collaborations avec des créateurs a priori avec lesquels je n'avais pas forcément d'affinité. J'ai commencé à apprécier leur travail, à découvrir réellement leur personnalité, et ça, c'est génial. Donc non, il n'y a pas de sélection particulière.
C'est vraiment carte blanche jusqu'à à la fin. Et est-ce que vous nous diriez quelle box a eu le plus de succès ou c'est secret ?
Non, ça, c'est pas, enfin, c'est secret. Qu'est-ce que c'est que d'avoir du succès ? Alors, il y a deux, non, il y a deux niveaux. Il y a un, le niveau de satisfaction de nos clients, parce que c'est la partie service client, et c'est un gros enjeu pour nous. Il y a beaucoup de gens qui travaillent chez nous, justement, pour répondre aux clients. On fait des enquêtes tous les mois après chaque expédition de produits pour savoir qu'est-ce qu'ils en ont pensé, est-ce qu'ils étaient contents. Donc, il y a des projets qui ont été très bien perçus, qui ont énormément surpris, je pense, à un cadre de Rangila, qui a quelque chose qui ressemble très, tout à fait à son travail, qui fait plutôt en galerie, qui a énormément plus surpris, mais qui n'a pas une vocation à faire qu'on estime pas avoir un potentiel commercial énorme, parce que c'est un objet très pointu, et si on ne raconte pas l'histoire, ça va être compliqué de le vendre. Et puis il y a des autres objets comme la carafe Egg de Sébastien Bergne, où... Là, on peut le voir aujourd'hui sur le site, il est réédité, ça doit faire la quatrième, cinquième édition qu'on fait de cet objet-là. Il y en a d'autres, donc les succès, il suffit simplement d'attendre un petit peu et puis de voir que bah, s'ils sont réédités, c'est qu'il y a une vraie demande de la part de nos clients.
Alors en parallèle, depuis un mois, je crois un mois ou deux mois, vous avez créé une marketplace qui permet aux artisans, aux créateurs, aux designers de vendre directement leurs créations. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Et peut-être, j'utilise le mot marketplace, peut-être expliquer ce qu'est une marketplace.
Alors, une marketplace, c'est un site e-commerce, mais avec la particularité, c'est qu'on met en relation directement des vendeurs avec des acheteurs. On ne fait que mettre en avant, promouvoir et percevoir une commission au moment de la transaction. Mais ce n'est pas nous qui fabriquons, ce n'est pas nous qui nous occupons de livrer. Donc ça, c'est pour la définition de la marketplace. Donc Amazon en est une, voilà, y a une multitude de gros acteurs sur le secteur. Dans la déco aussi, il y en a qui existent. On peut parler de Celency sur le côté vintage ou seconde main. Il y a First Dibs aux États-Unis qui mélange du contemporain et du vintage. Il y a des gros acteurs. Mais il n'y a personne qui s'est occupé réellement des créateurs contemporains, qui sont pourtant une multitude, ils sont des dizaines de milliers en Europe, à s'éditer et à distribuer localement, mais qui sont invisibles par le consommateur moyen. Donc je dirais que ce projet-là, sur lequel on travaille déjà depuis un an, qu'on a lancé il y a deux mois, il répond à la fois à une demande de notre communauté, parce qu'aujourd'hui on a à peu près 120 000 personnes qui nous suivent régulièrement, qui ont été abonnés, qui suivent les news, mais finalement, on propose des objets. Donc, il y en a un certain nombre qui nous en donnent, mais quand est-ce qu'on pourrait avoir? Est-ce qu'il n'y a pas des chaises? Tel créateur, vous le mettez en avant, mais il a fait d'autres choses, etc. Donc, l'idée, c'était de dire, un, on répond à nos consommateurs, à nos clients, à notre communauté, en leur proposant une offre plus large. C'est-à-dire que s'ils ont apprécié tel objet, ils vont découvrir que il fait en parallèle de ça une série de céramiques. Donc l'idée, c'était de dire, finalement, on permet à nos clients d'ouvrir et d'avoir une expérience d'achat plus large que juste de l'objet. Il peut aller jusqu'à un miroir, des objets beaucoup plus gros qu'on évidemment ne peut pas mettre dans une box. Donc c'est un, répondre à nos clients, et deux, surtout, rester sur notre fil conducteur depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire de mettre en avant des créateurs à travers cette marketplace, maintenant qui est une plateforme. L'idée, c'est que chaque créateur a sa boutique, on raconte son parcours, il y a une interview, on trouve beaucoup de contenu, on les met en avant, et donc on reste, et on défend toujours les circuits courts, c'est-à-dire qu'au lieu que ce créateur-là vende à une boutique, fasse des salons, etc., qui renchérit à chaque fois le coût d'accès à leur création, finalement, comme il y a une distribution directe, même s'il y a une commission de notre part, en fait, les produits sont hyper accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver une table en marbre à moins de 1000 euros, à 800 euros, faite par un créateur polonais. Une table magnifique, voilà. Et ça nous permet aussi de mettre en avant beaucoup plus de créateurs évidemment qu'on ne pourrait en avoir si on devait tous les éditer, parce qu'on en édite 12 par an. Et aujourd'hui, on est passé de, sur la plateforme, on est passé de 70 créateurs, parce qu'on en a édité 70, à près de 200 en un mois et demi. Donc, voilà.
Mais pourquoi c'est si difficile, justement, vous évoquez un peu, de retrouver le travail designer? Pourquoi c'est si peu accessible? Pourquoi, quand on parle de design, les prix s'envolent?
Le design, pourquoi est-ce qu'on en parlait au tout début? C'était pourquoi est-ce que ça s'adresse à une... On a l'impression que ça s'adresse à une élite. Le problème, c'est que le secteur vit sur de vieux modèles, un vieux modèle hérité qui n'a pas bougé depuis les années 60, grosso modo. Il se passe en ce moment la même chose que ce qui s'est passé dans l'après-guerre en Italie. Il y avait une multitude de créateurs talentueux qui n'avaient pas accès, ne pouvaient pas se faire éditer, parce que c'était que des vieux meubles rustiques de grand-mère. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a toute une génération qui ont monté toutes les grandes maisons d'aujourd'hui, les Cassina, etc. Ils ont été montés par qui? Par des esthètes, par des architectes, par des designers eux-mêmes. Les Danaisés, etc., qui ont pris leur destin en main et qui ont monté ces maisons d'édition qui aujourd'hui sont les leaders du marché. Sauf qu'aujourd'hui, se passe exactement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces quelques maisons, ces quelques gros acteurs, finalement, font travailler quelques créateurs, mais laissent sur le carreau toute une multitude de designers qui ont du mal à se faire éditer. On sait, j'admire tout le travail, toutes les initiatives que peuvent avoir les éditeurs, mais ils ne peuvent pas non plus éditer... 50 créateurs, ça prend du temps d'éditer des produits, de passer du temps avec eux. Donc comme tous ces créateurs qui sont laissés de côté, qui sont néanmoins très talentueux, ne peuvent pas se faire éditer, n'ont pas accès, ou simplement ont envie d'aller créer eux-mêmes et d'une manière plus libre, il faut les... Voilà, ils se sont développés localement, mais c'est très éclaté, c'est-à-dire qu'il y en a une multitude, mais c'est pas dans un bassin industriel en Italie, c'est en Pologne, en Bulgarie, en Estonie, partout, donc avec des collections qui vont de 3 objets à, pour certains, très structurés, à 50 produits.
Mais justement, le fait que les designers soient nombreux à s'auto-éditer, est-ce que ça veut dire que le marché du design est en crise ou au contraire, ça veut dire qu'il est bouillonnant d'activité?
Un peu les deux, en fait. C'est ce que je disais, c'est qu'il est en crise, c'est plutôt une crise structurelle. Le problème, c'est que, encore une fois, que ce soit en musique ou partout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Internet? Ce qui change énormément de choses, c'est comme on a la possibilité en tant qu'entreprise de s'adresser directement à nos consommateurs, si tant est qu'on se donne la peine de le faire. Aujourd'hui, le monde du design, il est en crise, entre guillemets, ça va bien quand même, hein, mais je dirais qu'aujourd'hui, il répond moins, c'est pour ça qu'on a le sentiment qu'il s'adresse à l'élite, parce que finalement, il passe l'éditeur là où il y a la création de valeur, c'est-à-dire là où il y a le créateur, là où il y a l'éditeur, ils ne sont pas en relation directe avec le consommateur. Et donc, du coup, ça passe par l'agent, le distributeur. Et donc, à chaque maillon de la chaîne, il y a une sélection de produits. Donc, l'éditeur peut faire un produit, mais s'il ne plaît pas au distributeur, le consommateur n'y aura pas accès. Et donc, finalement, on arrive à une offre qui est relativement standard, entre guillemets, et avec une offre de produits qui est limitée, puisque finalement, au lieu de donner sa chance à des produits, ça se trouve, il y a des produits qui n'ont pas passé le filtre de la distribution et des agents, mais qui pourraient tout à fait rencontrer leur public. Donc, je pense que c'est un facteur qui peut faire qu'il y a une espèce de lassement. Et par ailleurs, il y a le bas de gamme et le moyen de gamme avec des acteurs qui arrivent, très digitalisés, et qui ont une faculté à s'inspirer, pour ne pas dire copier, ce que font ces maisons d'édition de manière très, très rigoureuse et très laborieuse. Et donc, du coup, le consommateur, qu'est-ce qui se passe? Il voit un meuble qui arrive à, je ne sais pas moi, 500 euros. Et puis, 8 mois après, il voit le même dans une grande enseigne, qui n'est pas le même. Quand on s'y connaît, ce n'est pas le même. Mais c'est très proche. Et donc, du coup, le consommateur dit, mais pourquoi c'est si cher alors qu'il y a le même là? Mais en fait, ils ne font pas la différence. Donc, il y a un problème à la fois d'éducation des gens, et il y a une problématique de vitesse d'arrivée sur le marché et d'audace. En fait, c'est un secteur où c'est la création qui fait le marché et qu'on l'oublie trop souvent. Je pense que c'est les difficultés du secteur, elles viennent principalement de là. Et après, en revanche, la création, elle n'a jamais été aussi forte. C'est le paradoxe, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de créateurs, autant de créations. On n'a jamais formé autant de designers qu'aujourd'hui. Donc forcément, comme ils n'ont pas accès à la distribution, ils font. Donc c'est une super nouvelle. C'est-à-dire que je pense que c'est l'avenir de l'édition, c'est justement peut-être un mélange de ces deux modèles. Mais en tout cas, le modèle traditionnel ne peut pas continuer, en tout cas, sur essayer de baisser les prix, ça ne marchera pas.
Et les créations sont en exclusivité sur votre site ou on peut les retrouver ailleurs?
Non. Il existe en fait une multitude de marketplaces, d'acteurs. Alors, il y a des gros acteurs qui mélangent un peu de tout. Et puis, il y a des petites marketplaces locales. Donc, c'est vraiment très éclaté où il y a entre 10 et 50 créateurs. Grosso modo, en moyenne, on en trouve, si on fouille un peu, on va en trouver en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Allemagne. Vous trouverez des marketplaces où, qui sont des plutôt très locales, c'est-à-dire qui sont développées autour des créateurs qui se connaissaient entre eux. Et puis finalement, ils ont rencontré peut-être quelqu'un qui connaissait un peu le digital et qui leur a proposé de se regrouper pour vendre leur produits sur une plateforme. Et nous, notre objectif, c'est surtout pas de les empêcher de vendre localement du tout. L'idée, c'est plutôt de... on a, nous, une clientèle plutôt, évidemment, très large, plus importante. L'objectif, c'est de le faire un peu différemment, puisqu'on édite un magazine dans lequel on les met en avant. On a un gros travail, on est évidemment beaucoup plus structuré que ces acteurs-là, mais en aucun cas, on ne veut empêcher ces créateurs de vendre localement. Au contraire, plus ils vendront, plus on aura réussi. Donc, on est concurrents, mais tout le monde participe à l'évolution de ce secteur.
Et comment vous les trouvez alors? Vous les dénichez ou vous recevez des candidatures?
Alors, il y a un onglet sur la plateforme qui permet à chaque créateur de soumettre ses créations. Donc là, ça fait 2 mois, donc, mais bon, on en reçoit déjà un certain nombre. Donc il y a un tri qui est fait. Et puis après, c'est un secteur dans lequel on bouge beaucoup. On va à des événements, des foires, dans les offs surtout, pour identifier les événements qui sont en marge des salons, des grands salons de design, dans lesquels souvent les makers ou les designers qui s'auto-éditent montrent leurs créations. Et puis après, c'est un secteur qui est à la fois international, mais tout petit, tout le monde se connaît. Et donc finalement, le bouche à oreille fonctionne. Tiens, tu devrais regarder ce que fait ce designer, ce petit label. Et après, c'est plus un critère de qualité. C'est arbitraire, mais évidemment, entre le design très jeune, sorti d'études, et le design de l'auto-édition, moi je fais une différence, je vois la différence. Donc évidemment, c'est arbitraire. En même temps, voilà, on est obligé d'imposer un certain standard de qualité, mais en revanche, aucun standard de style. C'est-à-dire que je m'interdis de choisir des choses qui ne me plaisent qu'à moi. Au contraire, il faut que ça plaise au plus grand nombre.
Alors, j'ai l'impression que vous insistez aussi beaucoup sur la qualité des produits, leur pérennité, les matériaux, le savoir-faire unique. C'est important ça aujourd'hui? Est-ce que c'est même plus important pour vous? Les consommateurs ont besoin d'entendre ça aussi?
Ça fait, en fait, c'est aussi un des moteurs qui m'a poussé à créer Designer Box. C'est que, en fait, on en a un peu assez des objets jetables, grosso modo. Un objet jetable, c'est quoi? C'est pas forcément un objet parce qu'il est en papier et qu'on peut le jeter, il a un mono-usage. C'est un objet avec lequel on n'a absolument aucun lien affectif, ni aucune relation, et en fait, aucune proximité. C'est un objet qu'on va acheter de manière compulsive et puis finalement dont on se débarrassera très facilement parce qu'on n'a pas il n'a pas d'importance pour nous. En fait, l'idée, c'est de dire finalement un objet qui est bien fabriqué et qu'on achète avec soin, ou ça commence par l'objet, ça peut être un objet qu'on vous offre. Votre grand-père ou votre grand-mère peut vous offrir un objet, cet objet-là, vous n'allez pas vous en débarrasser aussi facilement qu'un objet que vous aurez pris comme ça, acheté dans une grande enseigne de manière spontanée, parce qu'on vous l'aura montré 20 fois en publicité. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer ce lien. Et donc pour recréer ce lien, c'est de raconter des histoires. Et donc les histoires, c'est quoi? C'est un objet qui doit être bien fabriqué, c'est quand même la base, qui peut être utile ou inutile. C'est pas, vaut mieux qu'il soit utile, mais il met un objet déco, ça reste un objet déco. C'est pas, enfin, y a un usage qui est très limité, mais s'il évoque quelque chose, finalement, c'est l'essentiel. Et finalement, l'objectif, c'est de créer ou de distribuer des objets qui ont du sens et qui, avec lesquels on entretient un lien un peu plus fort. C'est une manière aussi, bien sûr, on fabrique des objets, on contribue à produire et donc à faire consommer. Mais l'idée, c'est de consommer mieux, plus responsable. Et plus responsable, c'est-à-dire que l'idée, c'est de ne pas jeter systématiquement. Il vaut mieux les donner, les offrir,
que
s'en débarrasser.
Je crois que vous travaillez aussi en B2B, c'est-à-dire directement avec des sociétés pour des cadeaux d'entreprise. Enfin, c'est un peu réducteur comme formulation, mais est-ce que vous pouvez nous parler de cet aspect aussi de votre métier?
Alors en fait, dans l'univers du cadeau, entre guillemets, finalement, qui a un axe très fort, puisque évidemment la box est un objet à moins de 20 euros, donc l'angle cadeau est essentiel, alors que le cadeau qu'on se fait à soi ou le cadeau qu'on fait à quelqu'un. Sur cette partie-là, évidemment, les entreprises qui travaillent énormément sur la relation client, une banque qui va accorder un prix immobilier à quelqu'un, bah, quel cadeau il lui fait? Donc est-ce que donc c'est qui des chocolats ou qui un petit goodies avec un stylo avec marqué le logo donc des choses avec soit des objets très éphémères, soit des objets gadgets sans beaucoup d'intérêt. Et en fait, comme on a un positionnement qui est très axé sur la création, la maison, le design et à des prix très accessibles. On a été, c'est pas du tout quelque chose auquel on pensait au départ, mais on a été approché par ces gros acteurs qui avaient ces problématiques de remerciement, de faire des cadeaux, etc. Et donc du coup, on est amené à faire, mais c'est plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de produits qu'on vient packager, mais dans lequel on met toujours un contenu éditorial sur l'objet, sur le créateur. Et c'est ça qu'attendent ces gros clients, c'est finalement de raconter des histoires aussi à leurs clients. Et finalement, c'est une valeur ajoutée qui est essentielle. C'est-à-dire qu'on n'est plus à une époque où, et même ces gros acteurs qui ont un angle plus marketé, finalement, sont sensibles au fait que raconter des histoires, avoir des objets qui sont durables et qui ont du sens, finalement, c'est aussi initier une relation client plus durable. Et donc, évidemment, l'angle cadeau est un vrai pilier chez nous.
Mais ça reste un objet design, un petit vase, une tasse
Ça reste de l'objet, puisque les cadeaux d'entreprise, en général, c'est entre 10 et 50 euros.
Alors là, on parle de design, de jolies choses. Derrière tout ça, il y a quand même le suivi de production, la logistique, le marketing, etc. Vous êtes nombreux dans l'équipe ?
Alors aujourd'hui, j'ai un associé, Philippe Lair, qui est... donc on est deux, et il y a une équipe de 10 personnes qui gère tous les aspects, justement, fabrication, logistique, marketing, contenu, et puis SAV, qui est tout ce qui est service client, qui est une partie énorme, c'est j'ai pas reçu mon produit, qu'est-ce qui se passe, c'est toutes les problématiques du e-commerce, et de répondre systématiquement à tous les messages clients, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail.
Et vous, votre casquette, précisément ?
Alors moi, je suis directeur artistique. Directeur artistique, c'est-à-dire que je gère tous les aspects liés à la création, que ce soit dans l'image, le choix des créateurs, l'éditorial, l'évolution de l'offre, le packaging, tous ces aspects-là. Après, c'est très transverse, on a une petite structure, on est amené à tout faire, même le ménage. Donc,
ouais. D'où vous vient cette passion pour le design ?
En fait, je suis né un peu là-dedans. C'est-à-dire que j'ai des parents architectes. Et donc, depuis que je suis né, je vis dans du Zanotta, Danaise, Cassina. Donc, j'étais toute ma vie entouré d'objets. À force d'être traîné dans les musées, etc., évidemment, forcément, ça fait partie de mon univers. Voilà. Après, j'aurais pu être justement à contre-pied, dire, voilà, ras-le-bol, ce que j'aime, c'est le mobilier rustique. Je ne sais pas. Au vintage, non, je pense que ça nourrit en moi une grande admiration et une grande curiosité sur la création.
Et quel a été votre parcours avant de créer Designer Box ?
Alors moi, je suis architecte de formation. J'en ai fait 10 ans. J'avais monté une petite cellule dans le cabinet de mon père, avec des clients qui étaient très, très sympas, etc. Mais c'était très, très long. Je trouvais que entre la création et finalement le moment où ça existait, c'était très long comme process. Ça pouvait durer entre le permis de construire. C'est des étapes qui pouvaient durer 2 ans, 3 ans. Et puis, j'ai eu l'opportunité de monter une agence de communication. Donc, tout début d'Internet, on faisait des sites Internet. Et puis là, c'était une création ça pouvait exister en 2 mois. Donc évidemment, on est grisé par la vitesse à laquelle, entre l'idée et le moment où ça va exister, la vitesse à laquelle ça va. Et donc progressivement, j'ai glissé pour ne faire quasiment plus d'architecture, mais que de la communication et du digital. Après, j'ai participé à monter plusieurs projets. À chaque fois en tant qu'entrepreneur, donc évidemment, je prenais des participations, je montais les projets. Il y en a certains qui ont été échoués, notamment au début, et puis après, ça a mieux marché, donc j'ai revendu, j'en ai remonté un autre, etc. Et en 2015, 2004, j'ai l'opportunité de travailler avec Saint-Gobain, qui avait des difficultés pour matérialiser, faire exister leur innovation, communiquer sur l'innovation. Et donc, l'objectif, c'était de faire travailler des créateurs pour fabriquer des objets ou des installations à partir de ces technologies-là pour montrer des nouveaux usages. Voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment le démarrage entre l'idée de dire, finalement, la création est un très bon vecteur de communication, puisque finalement, il permet à des industriels de communiquer sur des savoir-faire à travers des objets, parce qu'un objet, bah, quand on parle d'innovation dans la presse, bah, c'est plus facile de montrer un objet qui vient incarner cette innovation. C'est-à-dire que c'est là que j'ai vraiment commencé à développer un réseau auprès des créateurs. Voilà. Et puis le contrat avec Saint-Gobain s'est arrêté, et donc du coup, on s'en est bien sorti. Donc du coup, c'est de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec, on a un peu d'argent. Voilà. Donc j'ai décidé à ce moment-là de monter Designer Box.
Est-ce que vous avez chaque pièce Designer Box chez vous ?
Absolument.
Comment vous définiriez votre intérieur ? Quel est votre style ? Il est forcément design ou vous êtes ouvert à d'autres courants ?
Alors, design, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Non, ce sont que des...
Contemporains ?
Alors, contemporains, ça c'est très certainement. Même si j'ai quelques objets hérités de grands-parents que je tiens, voilà. Mais globalement, oui, très oui, contemporains, on va dire 20e. Et de créateurs. J'ai pas de meubles, de grandes enseignes, non.
Alors souvent les femmes aiment bien la déco. Là, je connais pas votre épouse, mais c'est plutôt vous l'expert. Comment ça se passe pour vos achats ? C'est vous, elle, ensemble ?
Bah, je vis avec quelqu'un qui connaît quand même le secteur, qui a un angle très différent, peut-être moins professionnel que le mien, moins aiguisé, mais donc qui a un avis fort. Donc moi, il m'arrive d'acheter un meuble sur lequel je lorne depuis un certain temps. Je l'amène et on me dit, non, pas ça ici, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai un garde-meuble dans lequel je garde, et en rêvant un jour d'avoir une maison secondaire où je pourrais avoir enfin une pièce dans laquelle je pourrais profiter de ces objets ou de ces meubles. Voilà.
Quel est votre dernier achat déco, justement ?
Non, c'est plutôt, alors c'est pas un achat déco, c'est un dessin de Yona Vautrin, qui avait dessiné toute une série, un espèce de Kama Sutra. Donc voilà. Et sinon, en termes d'objets ou de. Si, le tabouret Vent Contraire de Brichet Ziegler.
Et le plus fou que vous ayez fait dans votre vie ? L'achat le plus fou que vous ayez fait dans votre
le
vie ?
Le plus fou ?
Ouais.
Aucun, parce que je suis pas un acheteur compulsif, donc en général je mûris, je peux avoir des coups de cœur, mais je vais pas, je peux faire des achats déraisonnables, mais je peux pas les considérer comme fous, dans le sens où j'ai toujours assumé, donc voilà.
Et est-ce qu'il y a un achat dont vous rêvez ?
Non, pas en design, non, en art contemporain, oui.
Est-ce qu'il y a des figures de la déco, du design que vous admirez ?
Oh, beaucoup. Bruno Munari, Enzo Mari, toutes ces générations-là qui étaient autour de Danese, qui est une maison dont un inconditionnel, en tout cas de cette époque-là. Mais il y en a une multitude. Il n'y a pas de. Enfin, moi, j'admire tous les créateurs m'inspirent, qu'ils soient artistes ou designers, peu importe. Il n'y en a pas un plus que l'autre.
Et vous qui êtes très ouvert à toutes les idées, à la création, justement, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une faute de goût à ne pas faire ?
La faute de goût, c'est pas de pas s'écouter, de pas prendre de risques. Donc pour moi, la faute de goût, c'est le total look, c'est voilà, on va refaire ou bien même simplement refaire, trop regarder les tendances, trop regarder les magazines, refaire ce qu'il y a dans les magazines. Et c'est ce qui contribue d'ailleurs à polluer la planète, parce que finalement, si on ne fait que suivre les tendances, ben on change son intérieur tous les deux ans. Donc, faut s'écouter et découvrir.
Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill, qui sont des petites questions pas chères payées. Je ne sais pas si vous les connaissez,
non.
Donc non, vous n'allez pas être déçus. Question à 10,95 €, le prix d'une BD Tintin. Chez Designer Box, vous aimez raconter des histoires, vous nous l'avez dit plusieurs fois, l'histoire des produits, l'histoire des designers. Et vous, quelle histoire vous aimiez qu'on vous raconte quand vous étiez petit ?
Pierre et Loup.
Question à 79 €, le prix d'une bonne paire de gants de boxe. Vous qui êtes expert en boxe, est-ce que vous connaissez la différence entre boxe française et boxe anglaise ?
Pour avoir fait de la boxe française, oui. Avec les pieds pour la boxe française et juste les mains avec la boxe anglaise.
Question à 9,99 €, le prix d'un abonnement mensuel chez Deezer. Pour l'épisode 10, je recevais Julia Rousseau de chez Good Mood, qui a travaillé aussi chez Deezer. Est-ce que toutes les personnes qui travaillent chez Deezer sont sensibles à la déco ?
Non, alors moi j'ai jamais travaillé chez Deezer. J'ai cofondé Deezer au tout début, mais j'ai pas eu de rôle opérationnel. Je n'ai pas développé Deezer. Il faut quand même que je le reconnaisse. Donc non, non, non. Mais Julia, c'est un parcours assez amusant. Mais après, je sais que Daniel Marélé, le fondateur de Deezer, est aussi un passionné de design et de déco, mais c'est venu sur le tard.
Merci beaucoup, Thomas.
T'en prie.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.